Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Mobilisation du collectif des collèges qui respirent ce vendredi dernier sur le parvis de l'hôtel de ville de Villefranche. Quelques réactions à la volée des manifestants. Présentation de la nouvelle identité visuelle du syndicat mixte des rivières du Beaujolais, SMRB, par son président Jacques Ménichon et Catherine Rebaud, sa vice-présidente. Une idée pour les vacances de février, les expositions permanentes du musée des Confluences à Lyon. Joint par téléphone Christian Sermet, responsable des expositions du musée.
Calade,
le journal. Dans la catégorie grand temps fort de l'année, la Saint-Valentin arrive dans le top 3 avec Noël et la fête des mères. Aux quatre coins du monde, cette tradition est plus ou moins respectée, avec des rituels parfois insolites, qui s'imprègnent des coutumes locales. Saviez-vous par exemple qu'elle n'est pas célébrée le 14 février dans tous les pays du monde ? Un petit panorama des Saint-Valentin dans le monde. Aux Philippines, tout d'abord, on s'embrasse à minuit. Comme dans beaucoup d'autres pays, les fleurs et les chocolats sont les cadeaux de prédilection de tous les amoureux de l'archipel. Aux Philippines, la Saint-Valentin est également l'occasion pour beaucoup de couples de se marier gratuitement en profitant des mariages de masse organisés par certaines églises et divers organismes gouvernementaux tout de même. Au Japon, tout le monde a son chocolat. Ici, pas de jaloux. Le vice commercial s'adresse également aux célibataires qui ont aussi le droit à leur journée spéciale. En Thaïlande, mariez-vous à la Saint-Valentin. Ici, la Saint-Valentin est une fête très importante. La symbolique rose est mise au placard au profit d'un adorable ours en peluche. Il n'est pas rare de voir plusieurs couples se marier ce jour-là. Jour porte-bonheur selon les Thaïlandais. Au Brésil, comme en Colombie ou au Mexique, on ne fête pas la Saint-Valentin le 14 février. Les Brésiliens suivent en effet la traditionnelle fête portugaise en célébrant Saint-Antoine de Padoue, saint patron et protecteur des âmes qui s'aiment. C'est donc le 12 juin, jour des amoureux, que les Brésiliens déclarent leur flamme, en s'offrant des petites attentions. Au Brésil, le jour des amoureux est bien entendu une occasion supplémentaire pour faire la fête. En Afrique du Sud, il existe une vieille tradition selon laquelle les femmes doivent épingler le nom de leur bien-aimé sur la manche de leurs vêtements ou directement sur le bas de leur robe le jour de la Saint-Valentin et ainsi pactiser avec la fidélité. Au quotidien, les Indiens ne montrent pas leur affection en public. Ils ne s'embrassent jamais et évitent même de se tenir la main. Il n'est donc pas très étonnant qu'une fête prenant l'amour ne soit pas très bien accueillie en Inde. Quant au pays de l'oncle Sam, il fête bien évidemment la Saint-Valentin, encouragé par les commerçants qui profitent de cette fête pour proposer des produits adaptés. Ici, tout le monde suit la tradition, en passant bien sûr par les centres commerciaux. Un bonus toutefois, une lettre enflammée mais anonyme le jour de la Saint-Valentin. Et en conclusion, une petite pensée pour ces pays qui ne connaissent pas la Saint-Valentin, parce qu'elle ne correspond pas aux valeurs et aux traditions des pays, parce qu'elle prône pour certains la débauche sexuelle, tout simplement parce qu'elle appartient à la culture occidentale. Pour d'autres, la fête de la Saint-Valentin est radiée du calendrier de plusieurs États. Parmi eux, le Pakistan, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran. À l'approche de cette fête, ces gouvernements interdisent la vente d'objets liés à la Saint-Valentin et sanctionnent même parfois les démonstrations d'affection en public. Les vénards. Mobilisation du collectif des collèges qui respirent ce vendredi dernier sur le parvis de l'hôtel de ville de Villefranche, alors que se réunissaient les élus des communes concernées du projet d'implantation du nouveau collège. Jacques Chirac, au collège Maurice Utriot à Lima, invité pour une présentation du projet par le département du Rhône. Quelques réactions à la volée des manifestants alors. Dans les questions qui sont abordées par les manifestants, sur quels critères seront évalués la distribution des places d'inscription des élèves d'un collège à l'autre?
Oui, parce que mon fils va rentrer à la rentrée. On a visité le collège qui nous a paru vraiment super. Et notamment le fait qu'il y ait, par exemple, les deux cours, 6e, 5e, 3e, 4e, séparés. Déjà, je trouve que c'est super rassurant. On sait que c'est quelque chose qui fait baisser tous les phénomènes de violence ou éventuellement de harcèlement. Donc c'est pour les enfants, pour les parents, c'est mieux. Après l'implantation d'un deuxième collège, on sait que c'est nécessaire, hein, mais l'endroit est trop mal choisi. Enfin, ça va être délétère pour l'année. Ça veut dire que les enfants vont passer leur temps dans le bruit des travaux, N'auront plus de place après. Il va falloir partager tous les équipements. Donc on sait très bien qu'au bout d'un moment, il y a un glissement qui fait que les équipements vont pas suffire, en fait, je pense. Hein. Après, voilà, je crois que ça, j'ai pas bien étudié le truc, mais qu'il va y avoir des phénomènes de cars, enfin, beaucoup de cars au même moment, et que ça va être des trajets longs, du coup, pour les enfants, surtout pour ceux qui viennent de plus loin. Enfin, je vois absolument pas, en fait, l'intérêt des enfants là-dedans, des élèves. À partir du moment où c'est pas dans leur intérêt, je pense qu'il n'y a pas à le faire.
Un manque de concertation avec les concernés, souvent décrié. Un lieu inapproprié pour beaucoup.
Alors, nous, aujourd'hui, on est de Lima, toutes les deux. Moi, j'ai mon fils qui est déjà au collège de Lima. J'ai d'autres enfants qui vont certainement aller là-bas. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment on va dissocier les deux ? Mes enfants, ils vont aller dans le collège actuel ou dans le collège qui va être ouvert pour les gens qui viennent un peu de l'extérieur ? Ben voilà, et deux collèges à côté, je trouve ça ignoble, en plus de parquer les élèves. On ne parle pas des élèves, en fait, on parle des structures aujourd'hui, mais on n'a jamais dit, est-ce qu'on a demandé aux élèves s'ils étaient contents ou pas? On n'a pas la voix des enfants aujourd'hui. On n'a que deux maires qui se disputent un peu le collège, alors qu'on a Arnas. Moi, j'ai lu un peu Arnas, il y a un terrain, on pourrait tout à fait mettre un collège à côté de l'escale. Et ça gérerait tout comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, moi, je ne suis pas pour les deux collèges au même endroit.
Un manque de concertation, comme la personne qui vient de le dire,
c'est ce qu'elle a dit. Tout à fait. En fait, on a pris le projet comme ça, un peu subitement, sans qu'on demande l'avis à personne. Je pense que les parents et les enfants sont les premiers concernés. Il n'y a pas eu du tout d'enquête de fait sur les besoins, justement. Il y a tout un secteur qui n'a pas de collège. Pourquoi en mettre deux l'un à côté de l'autre? Voilà, on ne comprend pas, on a besoin d'explications. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui.
Bah, les raisons, c'est le projet en lui-même qui est pas sain, l'endroit, le lieu. Construire des collèges sur Villefranche, c'est une nécessité. Par contre, c'est pas du tout l'endroit souhaité. Surtout, en plus, construire deux établissements au même endroit, c'est très problématique. Et puis, les structures sont mal pensées. Il manque plein de choses. Ne serait-ce que sur le sport, ça va être une catastrophe au niveau des installations sportives. Et tout est pensé à l'envers.
Et enfin, le souhait sage espéré auprès des élus de revenir sur leur décision.
On ose espérer que les autorités du département nous entendent sur le fond du problème, à savoir que l'idée de mettre deux collèges au même endroit est une mauvaise idée. Nous nous réjouissons du fait que nos élus investissent pour l'éducation, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et nous sommes persuadés qu'il y a plein de terrains autour de l'agglomération de Villefranche qui seraient bien mieux situés pour accueillir cet établissement. Et donc ce qu'on espère, c'est que tous les maires qui sont réunis aujourd'hui à la mairie de Villefranche trouveront des solutions et convaincront M. Guillotot du bien fondé de cette proposition.
C'était quelques réactions à la volée des manifestants du collectif des collèges qui respirent ce vendredi dernier sur le parvis de l'hôtel de ville de Villefranche, alors que se réunissaient les élus des communes concernées du projet d'implantation du nouveau collège. Jacques Chirac au collège Maurice Huitriot à Lima, invité par le département pour la présentation du projet du nouveau collège. Nouvelle identité pour les rivières du Beaujolais du syndicat mixte des rivières du Beaujolais SMRB. Le président du syndicat mixte des rivières du Beaujolais, Jackie Ménichon, et la vice-présidente Catherine Rebaud, en charge de la communication, dévoilaient ce vendredi 11 février dernier, salle du Conseil à Glaizé, la nouvelle identité visuelle pour les rivières du Beaujolais. Avec une nouvelle marque, Rivières du Beaujolais, un nouveau slogan, faisons vivre nos rivières. Les propos recueillis tout de suite de Catherine Rebaud tout d'abord.
Nous avons voulu créer en fait une marque. Donc le syndicat mixte des rivières du Beaujolais existe bien entendu toujours sous sa même forme. Mais simplement, nous avons créé la marque Rivières du Beaujolais de manière à ce que ça exprime clairement donc, la mission du syndicat, c'est-à-dire les rivières, et puis aussi son ancrage sur le territoire, c'est-à-dire Beaujolais. Donc ça donne Rivières du Beaujolais. Donc c'est un logo, enfin c'est facilement en tout cas mémorisable pour tout un chacun en fait, parce qu'on veut s'adresser vraiment aux grand public, mais aussi aux viticulteurs, aux agriculteurs, aux pêcheurs et même aux enfants, puisqu'on fait beaucoup aussi d'animation scolaire. Donc on a choisi quelque chose qui allait parler à tout le monde, Rivière du Beaujolais. C'est facile à mémoriser. Donc c'est un logo, nouveau logo, qui aussi se veut plus moderne et plus épuré. Et puis on a choisi aussi, de manière tout à fait concertée, parce qu'on avait fait des enquêtes, etc. avant, et des interviews, et on a rajouté le slogan « Faisons vivre nos rivières ». Donc c'est important parce que nous voulons vraiment fédérer justement toute la population et que les gens se sentent acteurs sur la problématique en tout cas des rivières et de l'eau en général.
Et avec j'allais dire une promotion en quelque sorte, vous avez parlé de certains visuels qui sont de façon interne sur les différents structures qui accompagnent cette question.
Oui, donc effectivement, Rivière du Beaujolais, donc le syndicat continue donc ses actions sur les rivières, aussi bien sur les volets inondations, pesticides, qualité de l'eau. Et puis avec cette marque et Faisons vivre nos rivières, nous allons toucher un plus grand public. Donc nous avons aussi, et nous retrouverons sur notre site internet, sur des posts Facebook ou d'autres réseaux sociaux, les vidéos qu'on a conçues, donc qu'on a réalisées cette année. Donc nous avons 5 vidéos qui seront à disposition et faciles à trouver. Donc nous ferons relayer également dans les communes, dans les communautés de communes, agglomérations, pour que justement qu'il y ait un enchaînement de communication et mieux connaître en fait les rivières et toute cette question du cycle de l'eau.
Une nouveauté également dans les axes d'action du SMRB, le contrat de bassin du Beaujolais que nous explique son président Jackie Ménichon.
Eh bien, ce futur contrat de bassin qui va être signé tout début avril va regrouper l'ensemble des actions liées à l'eau qui jusqu'à présent étaient signées en plusieurs contrats avec l'agence de l'eau. Un contrat sur les stations d'épuration, un contrat sur les rivières, un contrat sur les eaux résiduelles urbaines. Et là, sur l'ensemble du territoire du syndicat Mille et Rivières du Beaujolais, c'est-à-dire en gros de l'ancien jusqu'à Pommiers, et bien en un seul contrat qui va représenter quand même un investissement et des aides à hauteur de 38 millions d'euros, en un seul contrat on va reprendre toutes les problématiques liées à l'eau, que ce soit donc, comme je l'ai dit, la qualité des rivières, mais également l'assainissement, mais aussi les eaux résiduelles urbaines.
Donc une gestion un petit peu plus cohérente finalement pour le SMRB.
Voilà, tout à fait, une gestion tout à fait cohérente, et quand l'agence de l'eau nous a proposé ce type de contrat, bien entendu qu'on a répondu très favorablement, parce qu'on reprend ensemble l'ensemble des thématiques liées à l'eau, c'est-à-dire le grand cycle de l'eau.
C'était Jackie Ménichon, président du syndicat mixte des rivières, SMRB, et Catherine Rebaud, en charge de la communication pour le CMRB, qui dévoilait ce vendredi 11 février dernier la nouvelle identité visuelle pour les rivières du Beaujolais, avec une nouvelle marque, Rivière du Beaujolais, et son slogan « Faisons vivre nos rivières », disponible dès à présent. Une idée pour les vacances de février, exposition permanente du musée des Confluences à Lyon. Sur la piste des Sioux, joint par téléphone Christian Sermet, il est responsable des expositions au musée des Confluences de Lyon.
Sur la piste des Sioux, oui, effectivement, une exposition qui a ouvert au mois d'octobre et qui durera jusqu'à la fin de l'été 2022, jusqu'à la fin août. Alors là, on est sur une exposition de 1000 m² qui a un succès conséquent. Actuellement, c'est un sujet qui passionne les publics, et c'est une exposition qui va autour d'une collection d'un collectionneur privé bruxellois qui a eu la chance de faire l'acquisition de panoplies d'Indiens Lakota qui étaient venus en marge de l'exposition universelle de 1935 de Bruxelles. Dans un village reconstitué d'Indiens, comme on aimait le faire à cette époque-là, et qui, en repartant, ont laissé et ont vendu leur panoplie. Lui a pu récupérer cette collection, mais surtout, cette collection, il l'a documentée. Il est remonté jusqu'à la source même des descendants de ces Indiens de Lakota aux États-Unis. Il a pu réassocier des visages, des identités par rapport à ces panoplies. Et à partir de cette collection, qu'on présente comme le clou de l'exposition, et c'est des collections vraiment étonnantes, magnifiques, nous avons reconstitué...
Bien conservé, très bien conservé. Au niveau
des collections extrêmement bien conservées, parce qu'elles ont été conservées dans des malles en fer et avec une hygrométrie qui n'a jamais changé, une température constante. Ça, c'est les hasards, mais les hasards font parfois bien les choses. Et les collections sont restées dans leur état au moment où on les a mis en caisse dans les années fin des années 30. Et il se trouve que ça nous a servi de base pour nous interroger sur comment, en Occident, en Europe, plus particulièrement en Europe et en France, on a construit une image fantasmée de l'Indien d'Amérique du Nord.
Joint par téléphone Christian Sermet, il est responsable des expositions au Musée des Confluences de Lyon. Une idée pour les vacances de février, courez-y vite! Fin de notre édition, n'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade!